engagée pour l'éducation populaire.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils n'ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Eh bien, comme vous pouvez vous en douter, on va vous parler des retraites. Oui, demain, c'est la manifestation importante du 31. Elle est importante, mais pas déterminante pour nous. Pour nous, ce qui est important pour faire céder le pouvoir, c'est certainement pas simplement des millions de personnes dans la rue qui ponctuellement qui peuvent le faire. C'est le blocage de l'économie. Il n'y a que ça qui pourrait faire foutre la trouille au pouvoir. Bon, on n'en est pas là. On va peut-être y arriver, puisqu'il s'est passé quand même cette semaine un certain nombre d'actions pour justement faire en sorte que s'enclenche eh bien une grève reconductible dans beaucoup de secteurs. On en saura plus demain et les jours suivants.
Alors, la difficulté, c'est effectivement de construire un rapport de force dans lequel ceux qui sont les plus intéressés par cette transformation profonde de leur vie, que va être l'augmentation du temps de travail, puisque c'est une augmentation du temps de travail,
c'est ça, ouais.
Utilisent les armes qui sont les leurs, c'est-à-dire la grève, la cessation du travail et donc la cessation de la production de richesses. Alors, on sent quand même qu'il y a un petit raidissement de la part du pouvoir, puisque là, on va entrer dans les débats parlementaires, hein, puisque la loi a été présentée en commission ce matin. Finalement, avec toutes ces embrouilles de couloirs, de magouilles politiciennes et tout, je te tiens par la barbichette, il ne serait pas sûr que ça passe aussi facilement en termes de vote. Donc à nous, justement, aussi, d'appuyer, de mettre du sel sur les cicatrices pour qu'ils se mangent entre eux et que nous, on ne se mange pas entre nous. Mais surtout à réussir à prendre conscience de notre force. Alors il n'est pas anodin que ce week-end on ait fait sortir ce qu'on appelle les poids lourds, hein, les chefs, hein, en gros, à savoir le ministre de la Matraque et le ministre de la Bourse. Hein. Et puis que évidemment la mère Fouettarde nous a dit que c'est plus négociable l'allongement de la durée de cotisation et l'âge. Alors, on savait pas d'abord que c'était négociable avant. Et puis finalement en fait c'est elle qui siffle la fin de la récréation. On voit bien là le retour, on va dire, à la bourgeoisie primaire que représente évidemment le gouvernement et Macron. dans toute sa splendeur, puisque d'un côté on a la morale, hein, puis la manière de négocier, hein, c'est moi qui décide de ce qui est négociable ou pas, et puis de l'autre on a la droite et la réaction dans toute sa splendeur qui nous explique que les gens qui ne veulent pas travailler sont évidemment des feignants. Hein, c'est bien connu. Évidemment, hein, tous les gens qui se sont virés, c'est parce que c'est des feignants. C'est pas du tout parce que il y a des décisions derrière. Donc, si vous ne pouvez plus travailler, hein, évidemment, c'est que vous êtes un feignant. C'est pas que vous êtes abîmé par la vie. Enfin bon, on fait l'esprit, mais on a bien ressenti les choses qui reviennent habituellement dans les conflits et dans les crises. Alors, on a dit, nous, qu'on voulait pas bagarrer sur un plan technique, parce que quelque part c'est pas notre problème et c'est pas nos oignons, même si on aurait des tonnes de choses à dire là-dessus. On va utiliser une dizaine de minutes d'un économiste qui s'appelle Gilles Raveau, qui est l'économiste de Charlie Hebdo, qui va vous faire un petit point assez rapide sur ce que c'est la retraite. Puis on reviendra quand même sur deux points qui, à mon avis, sont importantes, mais en les traitant de manière politique. C'est d'abord, effectivement, cette question du travail, dans un premier temps. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire, justement, être en retraite, et qu'est-ce que nous propose le capitalisme ? Comment on voit bien qu'on est dans la clôture de quelque chose et dans l'ouverture d'autre chose ? On pourrait dire même le retour à un ancien temps du capitalisme, de travail à la tâche et d'auto-assurance, etc. etc. Mais d'abord, on va s'écouter Gilles Raveau pour une dizaine de minutes, si évidemment cela fonctionne, puisque...
Il y aurait eu 700 000 personnes ou il y aurait eu 1 300 000 personnes, ça ne change pas les choses pour nous.
La question des retraites, ça suscite toujours des inquiétudes.
Ce qu'on souhaite dans la vie, c'est d'avoir une retraite, et une retraite si possible digne et en bonne santé.
Dire que cette réforme, elle pénaliserait les personnes modestes, c'est exactement le contraire.
On va pas travailler jusqu'à 64, on va finir tabataire, hein, on va finir que les pots de départ, ce sera des pots mortuaires, hein, ce sera plus des apéros qu'on va faire.
Hein. Il suffirait de taxer quelques dizaines de milliardaires, on financerait, ce qui est factuellement totalement faux.
Il doit se faire cette réforme, pourquoi ? Elle doit se faire parce que sinon, dans les 10 prochaines années, on va cumuler 100 milliards d'euros de dettes sur le seul régime des retraites.
Le gouvernement qui veut nous terroriser, nous imposer des sacrifices très importants pour 15 milliards de déficits annuels futurs, est le même gouvernement qui a voté à l'automne dernier un déficit de l'État de 160 milliards, c'est-à-dire 10 fois plus. Le meilleur moyen de financer les retraites, c'est qu'il y ait plein de gens qui bossent et que ces gens soient bien payés. Voilà, donc j'ai écrit un hors-série pour l'hebdomadaire Charlie Hebdo qui s'intitule « Retraite, le casse du siècle ». Pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron veut nous faire bosser à mort ? Donc vous trouvez ça en kiosque. Et l'idée, c'est de vous expliquer de façon très très simple, avec le minimum de chiffres, avec un vocabulaire limpide, pas du tout technique d'économiste, que la vraie solution à long terme du financement des retraites, c'est l'emploi. Et j'explique plus fondamentalement que notre système de protection sociale, il est vraiment efficace et qu'il nous fait même gagner de l'argent. Alors, la réforme des retraites telle qu'elle est proposée actuellement par le gouvernement, il y a deux mesures essentielles. La première, c'est le report de ce qu'on appelle l'âge légal. Quelque chose de très étonnant en réalité, qui est que on sait qu'on commence dans la société à travailler à des âges très différents. Et malgré ça, tout le monde doit atteindre ce fameux âge minimum pour en fait avoir le droit d'arrêter de travailler et de toucher enfin sa retraite. Et donc, cet âge légal, qui est actuellement de 62 ans, sera progressivement passé dans les années à venir à 64 ans. Et puis, donc, la deuxième mesure, c'est l'allongement de la durée de cotisation qui devait déjà passer à 43 ans pour tout le monde, mais on va y passer plus vite que prévu. Alors, la justification de la réforme qui est avancée par le gouvernement, elle n'est pas absurde du tout, on la connaît tous, c'est la question démographique. Il y a cette idée qu'il n'y aurait pas assez de gens d'actifs pour cotiser pour les retraités, les inactifs. Donc ça, en fait, c'est ce qui se passe sur le plan, disons, humain, démographique. Et ensuite, on traduit ça en argent, en milliards d'euros, en disant, déjà, il faut savoir que le système actuellement est équilibré, il est même en excédent, en léger excédent en 2022 de 2 milliards d'euros. Et on fait des projections pour l'avenir en disant qu'il y aurait un déficit futur. Et donc, si on prend, et je pense qu'il faut le faire, le scénario le plus défavorable du Conseil d'orientation des retraites, parce qu'il faut être prudent, on sait que l'avenir va être compliqué dans plein de domaines, on aurait un déficit annuel qui serait, disons, de l'ordre de 15 milliards par an dans les 10, 20, 30 prochaines années. Je veux juste donner ce chiffre. La majorité parlementaire a voté à l'automne dernier pour cette année 2023 un déficit du budget de l'État de 160 milliards. 160 milliards d'euros qui sont évidemment financés par nos impôts et qui vont alimenter la dette puisque l'État est en déficit cette année à cause des très nombreuses baisses d'impôts qui ont été décidées par le gouvernement sur les hauts revenus et sur les entreprises. Et donc, je répète juste ce chiffre. Le gouvernement qui veut nous terroriser, nous imposer des sacrifices très importants pour 15 milliards de déficit annuel futur, est le même gouvernement qui a voté à l'automne dernier un déficit de l'État de 160 milliards, c'est-à-dire 10 fois plus. Alors, y a plusieurs aspects qui rendent cette réforme incompréhensible pour les Français. Je pense que le premier, c'est d'abord de dire on a un effondrement, par exemple, de notre école, de notre hôpital, et les gens attendent des solutions du gouvernement de ce point de vue-là. Et je crois qu'on ne comprend pas pourquoi le gouvernement s'excite sur les retraites, alors que ça n'est absolument pas l'urgence du pays. On l'a dit, la réforme repose sur deux principes. Tout le monde part plus tard et tout le monde travaille plus longtemps. Sauf que lorsqu'on regarde les carrières, on regarde autour de nous, eh bien quelqu'un, une jeune ou un jeune qui fait des études, qui a commencé à travailler à 22 ans, donc qui doit les 43 années de cotisation, pardon, 22 plus 43, ça fait 65 ans. Et donc, cette personne-là n'est absolument pas touchée par la réforme. Si, pour les personnes diplômées, ça ne change rien, si la réforme a pour but de faire des grosses économies, d'où viennent ces économies? Eh bien, elles viennent uniquement des personnes qui font les études les plus courtes, qui rentrent le plus tôt sur le marché du travail, qui ont les emplois les plus difficiles, les moins bien payés, les plus utiles à la société, hein, c'est ce qu'on a découvert, entre guillemets, pendant le Covid. Et donc, l'injustice de cette réforme, elle est quasiment totale. C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'en termes de classe sociale, très concrètement, cette réforme va faire que les ouvriers, les artisans, les vendeuses, les manutentionnaires vont devoir travailler plus longtemps, beaucoup plus longtemps, un an, deux ans. Et on a eu droit à cette déclaration extraordinaire d'Elisabeth Borne disant les travailleurs qui commencent à travailler le plus tôt sont ceux à qui on demande le moins de travailler plus longtemps.
Les 20% de Français les plus modestes sont ceux auxquels on demande le moins de travailler plus longtemps.
Parmi les nombreuses raisons très profondes d'opposition à la réforme de la retraite, c'est que évidemment, la retraite, c'est la fin de la vie et que derrière, il y a la mort. Et que donc, il y a quand même cette idée que, évidemment, en repoussant l'âge de départ, on vous vole les plus belles années de votre retraite. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, entre 95 et 98 ans, en moyenne, vous en bénéficiez moins, parce que déjà, souvent, vous êtes mort, qu'entre 65 et 68 ans. Donc, il y a cette idée évidente que les années, elles ne se valent pas et que ce qu'on vous enlève là au début, c'est atroce. En fait, la plus grande réussite factuelle de la sécurité sociale depuis sa création en 1945, c'est le fait que la vieillesse, qui avant était synonyme de pauvreté pour la plupart des gens, qui évidemment était courte, c'est un moment, en fait, où vous sortiez de la vie sociale parce que vous n'aviez plus les moyens. Vous n'avez plus les moyens de sortir, de bien vous habiller, d'aller faire vos courses et encore moins de participer à la consommation, d'aller au restaurant, d'aller au cinéma ou aujourd'hui de prendre votre voiture pour vous déplacer. Ce système de retraite français, là où il est vraiment extraordinaire, c'est qu'il est extrêmement simple. On prend l'argent tous les mois des gens qui travaillent, il est versé automatiquement et quasiment sans aucun coût sur le compte des gens qui sont à la retraite. Et donc, il faut bien insister sur le fait que cet argent n'est absolument pas celui de l'État. Alors ça, malheureusement, on ne l'apprend pas à l'école, mais la sécurité sociale, elle est à 100% financée par les travailleurs. Donc, je sais très bien que c'est les entreprises qui font les chèques à l'URSSAF, mais ce n'est pas leur argent. C'est l'argent des salariés, ce qu'on appelle à tort les charges sociales, qui sont en réalité des cotisations sociales. Vous voyez, les charges, il y a l'idée que ça pèse sur l'entreprise, et la cotisation, on voit, on cotise à quelque chose, comme quand vous cotisez une cagnotte pour un anniversaire. Ben, cette cotisation, elles sont à 100% payées par les salariés, les gens qui travaillent, elles sont versées aux retraités. Et donc, en fait, là, pour moi, il y a un vrai problème d'illégitimité dans ce que fait Emmanuel Macron, c'est qu'effectivement, il y a un problème futur de financement des retraites dans l'état actuel des choses, je suis d'accord, mais c'est à nous, démocratiquement, de dire ben, combien de temps on travaille, combien on cotise, et on en parle entre jeunes et vieux dans un débat démocratique. Pour moi, être libre, justement, c'est les services publics. L'éducation gratuite, c'est la liberté. C'est-à-dire que je peux m'éduquer, et si je suis parent, je suis pas inquiet. C'est-à-dire que je sais que mon enfant pourra s'éduquer. C'est une liberté extraordinaire. La santé gratuite, évidemment, c'est une liberté fantastique. C'est-à-dire que je sais que je ne vais pas mourir si je tombe malade. C'est quand même, c'est même plus que de la liberté, c'est vital. Et les gens qui se revendiquent de cet étendard de la liberté, donc les libéraux, les néolibéraux, sont ceux qui font réduire en permanence les services publics. C'est ce qu'ils disent eux-mêmes, ils veulent privatiser au nom de la liberté. Donc je me dis, comment est-ce qu'on peut défendre ça au nom de la liberté? Et en fait, qui c'est qui est libre dans la société? Évidemment, c'est les riches. Quand vous êtes riche, bah évidemment, vous savez que vous pourrez payer des études à votre enfant, vous savez que vous pourrez vous soigner, vous savez que vous pourrez voyager, donc vous êtes libre, vous pouvez vous déplacer concrètement. Et par contre, quand vous êtes pauvre, vous avez cette angoisse du lendemain, cette peur de tomber malade, cette peur d'avoir un accident du travail, de devenir invalide et de devoir tomber mendiant dans la rue, etc. Évidemment, vous n'êtes pas libre. Et donc, la sécurité sociale, ces termes sur lesquels on ne s'arrête pas assez, c'est de dire, collectivement, on vous donne cette sécurité qui est le fondement de votre liberté individuelle. La première chose à faire, c'est de supprimer l'âge légal. C'est-à-dire, déjà 43 ans, ça me paraît trop, mais à supposer qu'il faille garder les 43 ans de cotisation, ce qui, à mon avis, n'est pas une bonne idée, et qu'on pourrait, par exemple, passer à 40 ans de cotisation en cotisant un peu plus tous les mois, il y a plein d'économistes qui l'ont expliqué, l'âge légal, la première chose, c'est qu'il doit sauter. Comme ça, quelqu'un qui a commencé à travailler à 16 ans, effectivement, va partir beaucoup plus tôt que quelqu'un qui a commencé à travailler à 25 ans. Et on sait que même ça, et ça, je vais insister sur ce point, ça reste très injuste, parce que la personne qui a commencé à travailler à 16 ans, même si elle ne cotise que 43 ans, elle va mourir avant. Et donc, le temps qu'elle va passer à la retraite, même en partant plus jeune, va être plus faible que suite la, et en moins bonne santé que la personne qui a commencé à travailler à 25 ans. Donc là, il y a une mesure d'égalité fantastique, fondamentale, qui devrait n'avoir que la durée de cotisation. Et d'autre part, évidemment, il faut faire tout ce qu'on peut pour que la plupart des gens puissent bosser dans des bonnes conditions, avoir des bons salaires, avoir des postes de travail ergonomiques. Et ça, c'est un nom tout bête qui s'appelle le dialogue social. Le gouvernement, en fait, ne s'intéresse pas réellement à la question des retraites, et notamment, ce qui est extraordinaire, ne s'intéresse pas à la question de l'emploi et encore moins à la question du travail. Et donc, ce que j'explique dans mon texte, c'est qu'il y a plein d'obstacles qui sont bien connus, qui empêchent tout un tas de gens de travailler. Le coût très élevé des logements, par exemple, le coût du permis de conduire qui empêche des jeunes personnes de passer le permis de conduire, la difficulté pour les mères célibataires qui sont parmi les gens qui travaillent de loin, les personnes les plus pauvres, de faire garder gratuitement leurs enfants en bas âge, et puis d'une façon plus générale, tout le suivi de la carrière professionnelle, la santé au travail, la gestion des carrières qui permettrait à des gens de travailler plus longtemps. Et donc, ce qui est dingue, c'est que le gouvernement ne fait rien, en fait, pour accroître l'emploi, alors qu'effectivement, comme je l'explique et comme on le sait tous, le meilleur moyen de financer les retraites, c'est qu'il y ait plein de gens qui bossent et que ces gens soient bien payés. Si ne serait-ce que arriver enfin à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, ce qui est une obligation légale, évidemment, mais qui n'est respectée par, par la grande majorité des entreprises ne respectent pas cette obligation. Si on fait ça, le déficit des retraites futur, il est comblé du jour au lendemain.
Alors, oui, c'est un peu abrupte comme coupure, je m'y attendais pas. Bon, il y a évidemment beaucoup de choses à commenter. Là, on a un économiste bon qui nous fait une présentation globale. Hein,
simple quand même, simple.
Voilà, simple, au moins ça est nécessaire de résumer, mais à mon avis, il oublie quelque chose qui est un fondement principal hein, dans l'organisation de la société capitaliste, ou tout du moins celle qu'on pouvait avoir après la Seconde Guerre mondiale, hein, c'est cette question de salaire et de comment était constitué le salaire par rapport à l'activité. Alors, on va faire un peu le syndicaliste, là, pour expliciter, parce que c'est vrai qu'en discutant notamment avec mes collègues de travail aujourd'hui et au cours de la semaine pour les exhorter à faire grève demain, on se rend compte qu'il y a des choses qui, pour nous, apparaissent basiques, qui sont complètement sorties de l'esprit des travailleurs. Alors, dans le salaire, il y a évidemment beaucoup de choses. Il y a le salaire brut, le salaire net, le salaire minimum, le salaire universel et le salaire différé. Sur une fiche de paye, on a voit effectivement apparaître les cotisations dont s'acquittent les salariés, mais aussi celles dues par les patrons pour les allocations familiales, l'assurance maladie, la retraite, effectivement, etc. Ces cotisations, c'est ce que vous entendez dans la bouche des politiques, des patrons et de leurs représentants, enfin de tous leurs affidés, ce sont les fameuses charges qui, évidemment, pèsent et nous empêchent d'être compétitifs, quoi, qui empêchent toute initiative punitives, qui interdisent l'embauche, qui freinent l'emploi et qui portent en elles tous les malheurs de l'entreprise, de la toute petite PME, hein, de l'artisan, à évidemment l'immense multinationale. Tiens, pour rigoler, une petite citation, si t'arrives à trouver, hein. Je cite, les statuts sans nombre dans tout l'objet est de décourager l'industrie par la multiplication des formalités et des frais, et qu'il est essentiel de délivrer au plus tôt l'industrie de cette multitude de taxes. Alors, qui a dit ça? Ben, c'est pas Pierre d'Agataz, hein, c'est Anne-Robert Jacques Turgot, hein, en 1759, hein, déjà. Hein, vous voyez, hein, déjà à l'époque, hein, on n'a pas changé de registre. Bon, je continue, hein, en disant, c'est donc ces charges, hein, qui sont en fait des cotisations patronales, dont on a évidemment souligner l'exonération de plus en plus massive au cours de ces 10 à 20 dernières années. Mais ça constitue en fait un salaire mutualisé et un revenu différé pour le salarié. Donc ce salaire indirect, il sera restitué en cas de blessure, de maladie, d'accident, de chômage ou sous la forme d'allocations familiales, de pensions pour la retraite, etc., etc. Ainsi, même des instituts très sérieux comme l'INSEE considèrent logiquement la rémunération des salariés comme l'ensemble des rémunérations en espèces et en nature que les employeurs versent à leurs salariés en paiement du travail accompli par ces derniers. Salaire et traitement brut en espèces et en nature, cotisation sociale effective et imputée à la charge des employeurs. Donc vraiment, tout ce qu'on a produit comme richesse, c'est le salaire brut tout en haut, et ce qui nous est donné tout de suite, c'est le salaire net, et ce qui nous est donné plus tard, c'est l'ensemble de ce que je vous ai expliqué des salaires disponibles. De toute façon, dans la comptabilité nationale, toutes les cotisations et toutes les contributions sont vues comme des revenus, puisqu'elles se traduisent de façon automatique par des prestations versées aux ménages. Donc, ça, évidemment, ça n'empêche pas de dire que ces prestations sociales, qui seraient des dépenses publiques, bien évidemment trop élevées, alors que aucunement ces prestations, en tous les cas, ce salaire, il est à la charge de l'État, puisqu'il est notre propre richesse qui nous est distribuée après. Donc, le retraité, le chômeur, le malade, ils vivent absolument pas de la charité publique. Ils vivent absolument pas de l'État. Ils récoltent le fruit de leur travail passé, des richesses qu'ils ont produites auparavant. Donc, il est entretenu une confusion permanente, pernicieuse entre les impôts, qui sont bien des prélèvements, hein, évidemment, hein, notamment la TVA, en prélèvement, on va dire, indirect, et en prélèvement direct avec l'impôt à la source, et évidemment ces prestations sociales qui font une partie intégrante de notre revenu. La sécurité sociale a été créée en octobre 1945, hein, par Ambroise Croizat, ça on n'arrête pas de vous le rappeler, mais pas aussi des catholiques de gauche, hein, comme Pierre Larocque, et elle dit très clairement que le taux de la cotisation des assurances sociales, donc l'ensemble des cotisations, est de 12%, la moitié de la cotisation est à la charge employeur, l'autre moitié à la charge du salarié. Donc le financement de la sécurité sociale, il repose sur la collectivation des différés des salariés, donc leur cotisation et leur équivalent patronal. Et évidemment, cette idée, elle est insupportable aux capitalistes d'hier et d'aujourd'hui, comme aux gouvernants, hein, qui sont évidemment leur obligés. L'idée, elle sera combattue dès le début de la sécurité sociale avec la création des caisses complémentaires, hein, la Girarco notamment, hein, qui permettra d'individualiser les prestations. Et puis aujourd'hui, évidemment, on voit bien à quel point cette attaque elle est faite. Alors d'une part, en mélangeant tout, d'autre part, en exonérant évidemment le patronat de sa part de cotisation sociale, quoi. Ce qui est important de comprendre, c'est que dans le consensus social qui était issu de la Seconde Guerre mondiale, bon, évidemment, les patrons et les bourgeois avaient un peu profil bas, étant donné l'attitude qu'ils avaient eue pendant l'occupation. D'autre part, on avait une population qui avait vécu, on va dire, en dehors des cadres habituels de la bonne gouvernance. En plus, il y avait un certain nombre d'habitants de ce pays qui avaient un usage avec les armes qui était, on va dire, beaucoup plus habituel que celui qu'on pouvait avoir. Et il y avait la possibilité éventuellement de poursuivre un combat, de poursuivre la libération du territoire avec une libération sociale. Et donc, il est évident que l'ensemble de ceux qui avaient intérêt à revenir au statu quo ante a fait que on a eu de grosses concessions comme ça et la redéfinition évidemment d'un contrat social qui a été maintenu pendant presque une quarantaine d'années. Évidemment, la contrepartie, c'était de participer à un effort de travail extrêmement important pour reconstruire la société et donc avoir des travailleurs qui jouent, entre guillemets, le jeu de l'exploitation. C'est aussi également pour ça qu'à partir des années 60, on va avoir des vagues massives d'immigration, à la fois pour combler le déficit démographique, et puis de l'autre, pour occuper des emplois, notamment dans l'industrie, qui étaient, on va dire, les plus dégueulasses dans les grands centres industriels français. Alors, moi, j'ai fait cette petite incartade par là, parce qu'il est sûr que pendant le débat parlementaire, on va avoir tout ce baratin qui va être déployé. Puis, ça nous permettra de revenir dans la seconde partie de notre émission sur un autre point qui est fondamental. C'est l'invocation permanente qu'on a au travail, qui est de dire que bah, le travail c'est bien, le travail ça émancipe, il y a pas de vie sans travail, etc., etc. Mais on le voit bien là dans ce que j'ai essayé de vous dire, c'est que le travail en soi ça n'a pas de signification. Le travail s'il est en échange d'un salaire, il a une fonction particulière, c'est le salariat. Le travail, si c'est une activité qu'on fait à plusieurs, c'est autre chose. Le travail, si c'est un mot qui est utilisé sans le lien politique et social qu'on doit forcément lui donner, évidemment, ça n'a absolument pas le même sens politique. Et c'est aussi ça qu'il faudrait porter à l'intérieur de notre mouvement, c'est-à-dire si, bien sûr, on peut se cantonner à la défense des retraites et essayer de battre Macron et le gouvernement, mais ça doit être aussi une occasion pour nous d'interroger véritablement quel sens on donne au travail. De toute façon, j'allais dire, même si on n'en arrive pas jusque-là, la loi, elle est tellement dégueulasse qu'elle vaut pour elle d'être combattue, quoi. D'ailleurs, Denis, je vois que tu as travaillé ce week-end. Cette loi, c'est vrai que au-delà des deux points principaux qui ont été l'allongement de la durée de cotisation et l'allongement de la durée du temps de travail, hein, puisque ça va quand même à contrario de ce qu'on vit depuis un siècle, à savoir que depuis un siècle, le temps de travail il a été divisé quasiment par deux et la productivité elle a été multipliée par 40. Donc la question qu'on pourrait se poser, c'est où est-ce passé le pognon. Mais je vois que
on sait où est passé le pognon.
À peu près, ouais. tu as relevé quelques exemples.
Ce qui est incroyable dans cette proposition de loi, c'est le pouvoir, ce qu'il raconte, quoi. J'ai dire que vous allez bosser plus, mais ceux qui ont commencé les premiers à bosser à 16 ans, eh bien, n'en pâtiront pas beaucoup. C'est complètement aberrant. Je crois qu'il y a eu des exemples qui ont été donnés par Ravo, là, dans ce qu'on a écouté, qui sont clairs. Alors après, l'autre scandale, c'est au niveau des femmes. Alors, heureusement qu'il y a les Échos qui ont fait un boulot important, qui ont cherché, qui ont trouvé que les femmes nées en 1972 verront leur âge moyen de départ augmenter 9 mois en moyenne contre 5 mois pour les hommes de la même génération. Ensuite, pour la génération de 1980, l'effort est même deux fois plus important puisqu'elle partirait 8 mois plus tard contre 4 mois pour les hommes. Ce qui est évident, c'est-à-dire que c'est sûr que parmi les gens qui gagnent le moins, je crois que la moyenne des retraites des femmes est de 1196, c'est en dessous des 1200, alors que la moyenne des retraites des hommes est de 1900 euros.
Il y a un écart de 40%.
Un écart de 40%.
La retraite avant les pensions de reversion. Et avec les pensions de reversion, on arrive à un écart de 22% qui correspond à peu près aux 20% de différence dans le salariat entre les hommes et les femmes à poste équivalent.
Alors, le pouvoir, il fait quand même fort de dire ce genre de choses, de dire que c'est les femmes, non, ceux qui bossent depuis 16 ans, depuis l'âge de 16 ans, c'est pareil. Ils vont pas perdre dans cette histoire. Alors que c'est évident, n'importe qui réfléchit, si par exemple tu es né, tu as bossé à partir de 20... moi j'ai commencé à bosser à 23 ans, je crois. Bon, il me fallait, je sais plus combien d'années, 41 ans, 23 ans, 64. Il fallait que j'aille jusqu'à 64 ans. Bon, c'est ce qui s'est passé pour avoir ma retraite complète. Pour quelqu'un qui commence à 16 ans et qu'on lui impose...
62.
Jusqu'à maintenant, il pouvait s'arrêter à 62. Là, il va s'arrêter à 64. Et là, en s'arrêtant à 64, il va faire 2 ans de plus. C'est clair.
C'est ça. Ah. Mais en plus, tout ça, c'est dans l'optique de quelqu'un qui n'a pas de trou et qui bosse encore à 55 ans. Or, on sait que une personne âgée entre 50 et 65 ans ne travaille pas. Donc, ce sont des gens qui vont tomber automatiquement au RSA.
Ouais.
Enfin, ou dans les minima sociaux, qui ne vont pas pouvoir et qui vont devoir encore et encore cumuler pour arriver à un espèce de date butoir qui leur permettra de toucher leur retraite, mais qui sera une retraite extrêmement faible.
Ouais, tout à fait.
Donc vraiment, il y a rien à faire là-dedans, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est totalement abscone, parce que on voit bien que là, on a, comme on le disait, de la guerre. Les gens qui prennent les décisions sont les gens qui sont les plus éloignés de l'impact que ces décisions
de leurs décisions
ont. Et donc quelque part il y a une vraie violence dans ce truc, parce que des choses qui vont se faire par un bout de papier au journal officiel vont provoquer des souffrances et des violences sur les corps et sur les esprits, mais d'abord sur les corps, dans la chair, quoi, véritablement. Quand on a des gens qui vont au boulot avec la boule au ventre, quand on a mal, quand on a froid, quand on n'en peut plus, savoir qu'il faut encore continuer pour pouvoir survivre après, c'est vraiment hyper violent, quoi. Alors bon, on verra bien ce que ça va donner. Moi, je trouve qu'on a aussi vécu quelque chose d'intéressant ce week-end, puisque on a eu, et c'est pas pour rien que ça soit le ministre de l'Intérieur qui se mette à table, qui nous a fait le petit laïus habituel sur le travail, hein, le bon refrain conservateur de droite. Les gens qui veulent pas bosser, c'est vraiment des feignasses, hein, c'est bien compris, parce que le travail, c'est vachement bien, c'est ce qui fait la dignité de l'homme. Alors évidemment, le mot travail est devenu d'un usage si court que personne ne songe à le remettre en cause ni à s'interroger sur la signification réelle, ce que j'essayais de dire. Alors, comme disait ma grand-mère, faut toujours faire de l'étymologie. C'est toujours bien et c'est toujours intéressant. Bon, évidemment, c'est un vieux classique, hein, qu'on vous fait, hein. Le mot travail vient du latin tripalium, hein, donc les trois pieux, qui était un instrument de torture où le suppliciait les esclaves qui, justement, ne voulaient pas travailler. Hein. Mais il n'y a pas que ça. Hein. Le travail et la douleur sont donc évidemment consubstantiels. Alors, dans la Genèse, hein, dans la Bible... au tout début de la Bible, dans l'Ancien Testament, Dieu, hein, qui s'appelle Yahvé, c'est cette marque-là, hein, chez eux, il condamne la femme à enfanter dans la douleur et l'homme à subvenir à ses besoins. Et pour les deux choses, il emploie le même mot qui est le mot travail. Et oui, la femme, quand elle accouche, on parle du travail, quoi. Donc, on voit bien que l'un n'est pas indissociable de l'autre. Marx écrivait dans le livre 1 du Capital, le travail, c'est d'abord un processus entre l'homme et la nature, au cours duquel l'homme règle et contrôle ses échanges avec la nature par son action personnelle. Il se conduit vis-à-vis de la nature matérielle comme une force de la nature, il met en action ses forces corporelles naturelles, ses bras, ses jambes, sa tête, ses mains, pour s'approprier les produits naturels en leur donnant des formes utiles à son existence. Par cette activité, il agit sur la nature et par la même occasion, il transforme aussi sa propre nature. Donc on voit, le travail et le salaire, c'est pas du tout la même chose. C'est assez récent d'ailleurs le salariat dans l'histoire du travail et dans l'histoire de l'humanité. Puisque dans tous les temps, l'homme s'est dépensé pour sa survie. Il est donc obligé d'avoir une activité, d'avoir un travail. Mais dans le monde contemporain, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qui est lié au salaire. Puisque dans l'Antiquité, les intellectuels, les hommes avaient aussi cette notion du travail, ou en tous les cas ce rapport au travail. Par exemple, en grec, on parle d'ergon. Ça veut dire, c'est la notion de création. Donc, de faire quelque chose de ses mains, de faire quelque chose de... En latin, ça s'appelle opéra. C'est le même mot. C'est ce qui va d'ailleurs donner ouvrier, œuvre, etc. À la différence de ça, quand celui qui crée, donc opéra, œuvre, à la différence de ça, il y a un mot pour le travail forcé, le labeur forcé, c'est le ponos. C'est la peine, hein. C'est là que devient le mot peine. Donc ça, c'est la souffrance, le malheur, la fatigue. Ponos et labor, c'est la même racine, quoi. Donc si la première, l'ergon, permet à l'homme de s'épanouir, la seconde, effectivement, c'est une calamité dont il faut se débarrasser. D'ailleurs, personne n'a oublié que sur le portail d'Auschwitz, c'était bien marqué Arbeit macht frei, quoi, le travail rend libre, quoi. Donc bon, évidemment, ce travail salarié est quelque chose qui n'est jamais interrogé en soi, puisque produire, pourquoi faire, pour qui, comment et dans quel but, c'est évidemment des questions qui obligent à interroger la construction de la société telle que nous la vivons aujourd'hui. Et il est évident que personne ne répondra à Darmanin, même la gauche qui va, elle, se revendiquer des travailleurs et du travail, ne va interroger cette notion de travail, parce que aujourd'hui, dans la cataclysme que l'on vit, notamment le cataclysme climatique, interroger la notion de ce qu'on produit et pourquoi faire, ça implique véritablement de remettre en cause la société dans laquelle on vit, quoi.
Et le capitalisme, évidemment.
On va reprendre notre respiration et puis on va essayer de passer au mouvement social.
Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Ces gens qui courent au grand galop en auto, métro ou vélo, vont-ils voir un film rigolo? Mais non, ils vont à leur boulot. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la conserver. Pour les vacances et sont crevés quand elles commencent. Un mois plus tard, ils sont costauds, mais faut reprendre le boulot. Et tous ensemble, le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la me court après, il n'est pas prêt de me rattraper. Le travail, c'est la santé. Tu parles, rien faire, c'est la conserver. Les prisonniers du boulot font pas de vieux os. Maintenant, dans le plus petit village, comme des sauvages, je les ai vus, pour se payer tout le confort. Quand ils ont tout peint, ils sont morts. Le travail, c'est la santé. Rien faire, c'est la
Oui, bon.
Obligatoire. Oui. C'est marqué dans le cahier des charges de l'émission. Voilà.
Alors, on avait dit qu'entre le 19 et le 31, il y avait quand même 12 jours, et ça nous permettrait peut-être de savoir un peu si il se passait quelque chose au niveau de la contestation sur le terrain. Alors, effectivement, il s'est passé quand même des choses. Ne serait-ce que des retraites au flambeau dans beaucoup de villes, pas à Reims évidemment, mais ça...
Faut pas rêver.
Il y a eu donc des centaines de personnes qui ont fait des retraites au flambeau à Toulouse, Clermont-Ferrand, Saint-Malière exactement. Puis il y a aussi, je crois, beaucoup de villes en fait, hein, Lille, etc. Ensuite, il y a eu des grèves au niveau des raffineries et de l'énergie. Ça a été des grèves ponctuelles pour l'instant, elles sont pas générales. Il y a eu aussi le fait qu'il y a eu des gens qui se sont retrouvés, ils ont pu bénéficier une nouvelle fois du gaz et de l'électricité, puisqu'ils étaient coupés pour des raisons économiques et sociales. Et là, il y a les syndicats CGT surtout, qui ont fait en sorte que ces gens soient remis dans le circuit. Il y a eu aussi pour la gratuité du gaz et d'électricité, il y a eu aussi des hôpitaux qui en ont bénéficié, des patinoires, des piscines municipales, des bibliothèques, des établissements scolaires et de crèches, des chauffages collectifs d'universités ou des HLM aussi. Bon, alors ça, tout ça, c'est illégal, évidemment. C'est sûr qu'il va y avoir des procès à jour. Il va falloir quand même être solidaire de ces gens qui ont pris des risques. Bon, voilà. Ensuite, il y a eu le fait que ça touchait aussi des petits commerces, des artisans, des petites entreprises, comme les boulangeries, par exemple, qui ont été placées en tarif réduit, et des usagers qui s'étaient vus couper leur accès à l'électricité ont été de nouveau branchés au réseau. Alors ensuite, qu'est-ce qui s'est passé aussi ?
On voit quand même le pouvoir que peuvent avoir une action de travailleurs dans un truc quand même incroyable.
Ouais, tout à fait. Alors ensuite, bon, on va voir que ce qui est déterminant, c'est ce qui va se faire après ou pas le 31. On ne sait pas trop. On sait que au niveau de l'énergie, il va y avoir des choses qui vont se passer. On sait qu'au niveau des cheminots, il y a des choses aussi qui sont prévues. Tout ça, généralement, après le 6 février, parce que je crois que le 6 février, c'est là qu'il y a débat au niveau de l'Assemblée. C'est un piège quelque part de se fixer par rapport à l'Assemblée. Puisque, au niveau de l'Assemblée, faut pas se faire d'illusions. On va avoir, comme d'habitude, des ronds de cuir, des trucs, des engueulades, mais qui ne mènent à rien. De toute façon, s'ils veulent faire passer la loi, ils la feront passer avec le 49-3. Donc, le problème, il n'est pas là. Si on veut les faire céder, hein, si on veut vraiment les faire céder, il va falloir qu'il y ait un sacré rapport de force.
Alors, semble-t-il que ça commence à entrer dans les têtes et on a entendu sur certains secteurs la volonté de partir en grève reconductible et que la date du 31 pourrait être déjà un point de départ pour certains secteurs, notamment dans l'éducation nationale.
Ouais, mais enfin, il y a les vacances qui arrivent.
Il y a les vacances qui arrivent, donc bon, ça va pas faire une grosse grève, mais en tous les cas, ça pourrait permettre d'avoir des espèces de galop d'essai et de prendre surtout confiance et de déclencher quelque part véritablement, on va dire, le mouvement social pour pouvoir se faire. Enfin, dans tous les cas, on n'a pas de recette magique ni de dire aux gens ce qu'il faut faire. Enfin, si, on a bien quelques idées sur ce qu'il faudrait faire, mais on ne va pas les dire ici. Mais ce qui est important, c'est pour que ce mouvement, enfin, s'il y a un mouvement, il prenne de la force, il faut qu'il y ait un maximum de contrôle de la part de ces acteurs sur ce mouvement. Et il faut que demain, dans toutes les après toutes les manifestations et dans toutes les villes, il faut que les gens puissent se réunir, discuter pour se rassurer, pour se supporter, pour se conforter et pourquoi pas pour s'organiser. C'est-à-dire pour prendre conscience effectivement de sa force. Alors, il s'agit pas de s'organiser contre ni d'avoir des méthodes toutes faites. Il s'agit de se mettre en mouvement et d'entrer véritablement en lutte dans sa tête et dans son action. Je ne sais pas si on aura la possibilité de faire ça à Reims, mais il faut vraiment le réclamer, et si on ne le donne pas, il faut l'imposer, c'est pas grave. Et on n'a pas besoin d'être des centaines ou des milliers à se réunir, parce que déjà ça va être très bordélique sinon, et ça va pas être simple, mais déjà commencer par un petit bout, ne serait-ce que se voir, discuter, faire connaissance et se revoir après, ça peut permettre déjà d'embrayer sur quelque chose. Et puis bon, après, de toute façon, il est évident que s'il y a du monde dans la rue demain, et il y aura du monde, parce que les premières remontées que l'on a de ci de là laissent apparaître un taux de grévistes supérieur à la journée 19. Et en plus, on peut pas nier le fait que chacun et chacune ait pris un peu de plaisir à être aussi nombreux et avoir l'impact que ça a eu sur les politicas. Donc il y aura du monde, mais comme tu l'as dit, ça va malheureusement pas être suffisant, parce que en face, on a quand même un gouvernement de choc, de combat de la bourgeoisie, des gens qui sont on n'a rien à foutre de nos gueules de toute façon, qu'on crève au turbin ou qu'on crève dans les hôpitaux, et puis qui de toute façon sont totalement déconnectés de la réalité sociale, puisque ces gens pensent que les maçons ont des exosquelettes, et que désormais il existe tout un tas de choses qui permettent de faciliter le travail. On les invite évidemment à venir dans nos entreprises, dans nos vignes et dans nos usines, pour bien leur démontrer que véritablement rien n'a changé, quoi. Que en 1984, il y avait 12% de la population qui était soumise à trois critères de pénibilité, à savoir la répétition, le poste, il y en a plein d'autres, mais la posture, le travail posté, donc en décalage, l'exposition à un agent chimique, etc., etc. Aujourd'hui, on est à 40% de la population qui est soumise à au moins trois critères de pénibilité. Donc il y a vraiment eu une intensification du travail, alors que on a réduit la durée du temps de travail, alors que on nous fait croire qu'il y a une automatisation partout. Donc vraiment, plus que jamais, on a toutes les raisons de se révolter. Il y a aussi une deuxième chose qui va être intéressante, c'est comment les gens vont réagir par rapport à la situation de grève, alors notamment dans les grandes villes, notamment sur les transports publics. Alors, il faut espérer que cela... évidemment, il y a des gens qui ne peuvent pas, ne veulent pas ou ont peur de faire grève, ou peuvent pas faire autrement, parce que ils sont soit dans des secteurs où ça tape sévère, soit parce que ils sont vraiment à 50 balles près, quoi. Et il y en a de plus en plus. Je sais de quoi te parle. mais bon, ce qui est, on va dire, pas grave, c'est que, et on l'a dit déjà à de nombreuses reprises, il faut profiter de cette, moment pour pouvoir essayer, en tous les cas, de non pas de vivre autrement, mais de vivre aussi le mouvement social tel qu'on pourrait le faire. On se rappelle qu'en 95, il n'y avait jamais eu autant d'autostoppeurs sur les routes, et que ça aussi, c'est des moments où on peut échanger et on peut décider de travailler, de vivre et de travailler autrement, quoi. Parce que à l'inverse de ce qu'on a dit tout à l'heure sur le travail subi pour pouvoir avoir un salaire, pour s'acheter des choses, et d'ailleurs avoir un salaire où la moitié part en électricité, l'autre moitié part dans l'essence, salaire hybride, alors que le chômage, c'est une perte de travail subie, la grève, elle, c'est un arrêt de travail voulu. La grève, il peut y avoir plein de motifs, mais en dernier recours, dans le cadre d'un conflit du travail, c'est le moyen d'action des salariés pour obtenir, pour créer un rapport de force favorable à leurs revendications. C'est un geste volontaire dont l'importance déborde d'ailleurs le point de fixation, donc le rapport de force et la revendication qui l'a provoqué. En 1908, dans l'action syndicale, Victor Gruffuel, le secrétaire général de la CGT d'alors, proclamait un libertaire, hein, la grève éduque, elle aguerrit, elle entraîne et elle crée. Et c'est à ça que peut nous servir cette grève, et c'est à ça que peuvent aussi nous servir la grève des autres, nous éduquer, nous aguerrir, nous entraîner et être une possibilité de création magistrale, pour pouvoir inventer ensemble autre chose, quoi. Alors évidemment, nous, on sera dans la rue, à Reims. Peut-être que s'il y a des auditeurs qui veulent en discuter, il n'y a pas de problème. Hein. Nous ne sommes pas que des voix, nous sommes aussi des corps. Et bon, bah, évidemment, on n'est pas non plus complètement fou. Hein. On sait très bien qu'à Reims, c'est toujours difficile et délicat de sursoir à ça. Espérons que les gens qu'on a rencontrés au cours de ces dernières années seront aussi capables et auront aussi la volonté de dépasser cette simple manifestation plan-plan. Mais en tous les cas, on est persuadé que dans des dizaines et des dizaines de villes, il y a des choses qui vont se passer et qui vont peut-être constituer la colonne vertébrale de quelque chose qui pourrait faire que le mois de février soit pas si pourri que ça. En tous les cas, de toute façon, on n'a rien, pas grand-chose à perdre, hein, parce que voilà, on a que des trucs à gagner, parce que ce qu'on a à perdre, on le sait. Bosser jusqu'à 64 ans. Non, franchement, ça va pas être possible, quoi. Alors, comment est-ce que on peut, toi qui as un paquet de mouvements sociaux au compteur, voir si justement ces choses-là, elles peuvent s'amorcer ou elles peuvent démarrer ou elles sont sensibles.
Je sais pas. C'est que quand on regarde bien. Il est évident que si on a gagné en 95, mais quand on gagne quelque chose, il faut passer à l'illusion. On le repère après. On l'a perdu après, en 2003, ce qu'on avait gagné en 95. Si on a gagné en 95, c'est grâce aux cheminots qui, à 160 000, ont fait une grève d'enfer, 3 semaines, qui ont permis que la France soit bloquée, plus de train, qu'il y ait des problèmes d'ailleurs au niveau de l'approvisionnement en essence aussi. Et en gasoil. Donc, on s'aperçoit que, de toute façon, pour le rapport de force en question, il faut toucher l'économie. Alors, qu'est-ce qui peut toucher l'économie? C'est clair, c'est l'énergie, le transport. C'est pas l'éducation nationale, hein, parce que si, si les instituts, les profs, etc., ne travaillent pas, c'est pas ça qui va faire en sorte que, d'un seul coup, surtout qu'il n'y a pas de bac tout de suite, comme on a eu en 2003, puisqu'en 2003, si ça s'est cassé la gueule, c'est parce que c'était le secteur éducatif qui était à la pointe du combat. Et comme le bac arrivait, eh bien, le 25 mai, la grève s'est arrêtée parce qu'effectivement, il y avait la pression des parents, il y avait la pression aussi des élèves, et il y avait aussi la pression des syndicats de profs qui disaient qu'ils ne pouvaient pas assumer le fait de boycotter le bac. Alors, ce qui était complètement aberrant, puisque je vous rappelle qu'en 68, eh bien, il n'y a pas eu de bac. Il y a eu un bac complètement fictif en juillet. Je sais de quoi je parle, puisque j'ai eu le bac en 68, et ça m'a pas empêché de faire ce que j'avais envie de faire dans cette putain de société. Donc, bon, voilà, quoi. Donc, alors maintenant, est-ce que il y aura certaines, il y a beaucoup de gens qui ont parlé au niveau de 95 de grève par procuration. C'est-à-dire que les cheminots faisaient grève pour nous. Ce qui fait qu'on était amené quand même à subvenir à leurs besoins. C'est-à-dire les aider...
Solidarité.
Et là, il va falloir aussi se poser la question. C'est-à-dire que c'est faire grève, faut effectivement assumer. Surtout quand c'est une grève longue. Et là, c'est une grève de quelques semaines, c'est clair. La reconductible, ça ne peut marcher que si ça fonctionne plusieurs semaines. Et là, je pense que, comme nous le disaient les cheminots souvent, ah, on a prévu, on a mis de l'argent de côté, mais bon, ça suffit pas.
Et puis, alors, et il faut que cette solidarité aussi, elle soit large, maximale et qu'elle soit politique. C'est-à-dire que ça se passe pas virtuellement par des petits chèques par-ci par-là, qui sont des choses évidemment très très louables, hein, pas en train de cracher dessus. Mais cette solidarité, elle doit être aussi un moment d'action et de mobilisation. C'est-à-dire que s'il y a une solidarité, ça doit être des instants ou des moments où on publicise la grève, on publicise le mouvement et on en fait des moments collectifs pour pouvoir justement donner une épaisseur à cette solidarité et donner aussi, pas seulement de l'argent, mais aussi un soutien réel, un soutien politique, un soutien social, un soutien de classe aux gens qui peuvent, eux, plus se mettre en grève que d'autres personnes.
Donc, je pense que maintenant, il y a quand même des outils, comme les cagnottes, pourraient faire en sorte que, effectivement, ça fonctionne.
C'est ça. Alors après, il y a la question du blocage. Tu parles de le blocage de l'économie. Le meilleur blocage de l'économie, c'est la grève. En plus, aujourd'hui, au niveau des blocages en soi, qui sont des blocages de rond-point, ce genre de trucs comme ça, c'est pas forcément des choses qui permettent de suspendre le quotidien, même si les Gilets jaunes avaient pu utiliser cette méthode-là. Donc, si on bloque, il faut pas non plus qu'on soit, j'allais dire, de la chair à un syndicat, qu'on se réveille et qu'on devienne des petits soldats pour suppléer au manque d'effectifs des centrales syndicales. Mais il faut que nos blocages soient particulièrement bien organisés, mais aussi particulièrement pertinents. C'est-à-dire bloquer qui, quoi, pourquoi faire et à qui ça profite. C'est vrai que bloquer le pauvre Charlu qui va bosser à Reims, c'est pas hyper intéressant. Par contre, bloquer la logistique d'approvisionnement de Leclerc ou de Carrefour, ça c'est des choses qui sont un peu plus intéressantes parce que c'est clair que eux se rincent largement la tronche par rapport au prix qu'ils pratiquent. Enfin, c'est des choses qu'on balance comme ça hein, mais qui méritent d'être débattues, mais en tous les cas qui permettent là aussi d'avoir on va dire une épaisseur par rapport à nos mouvements. Alors, toutes ces idées qu'on vient de balancer, tous ces discours qu'on vient d'avoir, ça nous intéresse pas forcément de les avoir derrière notre micro. Ce qui nous intéresse, c'est de confronter ces propositions-là avec d'autres propositions et évidemment d'avoir des avis contraires ou d'autres idées qui sont certainement meilleures que les nôtres. En tous les cas, c'est ce qu'on vous invite, vous, à faire dans les villes de Toulouse, de Montpellier ou même si vous écoutez sur le net, à le faire chez vous dans les manifs et à l'issue des manifs, et en espérant que la semaine prochaine on puisse vous raconter toutes les bonnes AG qu'on aura pu avoir
et surtout les bonnes actions
et toutes les bonnes actions, et on ira essayer de voir du côté de nos camarades qui sont dispersés au coin de la France si eux ils ont aussi des exemples ou des belles choses à nous raconter. Voilà.
Allez, on se retrouve la semaine prochaine.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. C'est une belle blague. Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs